Bonjour à tous et bienvenue pour les grands formats de Sans langue de bois. Une fois par mois, nous vous proposons en effet un entretien en grand format avec une femme ou un homme politique. Et c'est Christian Jacob, notre premier invité. Christian Jacob, réélu en juin dernier, député de la 4e circonscription de Seine-et-Marne, centrée sur Provins, dont il est également le maire, et dans la foulée, réélu président du groupe UMP à l'Assemblée, poste qu'il occupe depuis le 23 novembre 2010. Bonjour Christian Jacob.
Bonjour.
Alors, merci de me recevoir dans votre bureau à l'Assemblée nationale. Alors, vous l'avez compris, il y a une condition à cet entretien, c'est le titre de l'émission, il faut parler sans langue de bois. Vous l'acceptez?
Mais oui, avec
Très bien.
plaisir.
Alors, c'est pas la première fois que vous acceptez de répondre sans langue de bois à notre micro, puisque l'année dernière, vous nous avez donné une interview. C'était dans votre bureau à Provins, et vous avez pu, entre autres choses, alors à l'occasion de la sortie de votre livre, nous parler de votre amitié pour Jean-François Copé. Auquel vous avez d'ailleurs succédé il y a 2 ans au poste que vous occupez de chef des députés UMP à l'Assemblée. Alors c'est donc sans surprise que vous soutenez Jean-François Copé dans la course pour la présidence de l'UMP, qui se dérouleront, en tout cas le vote, les 18 et 25 novembre prochains. Alors rapidement, quelles sont les qualités de Jean-François Copé pour ce poste? Qu'est-ce qui fait qu'il a votre soutien?
Je pense qu'il est l'homme de la situation pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il symbolise la reconquête. Nous, on l'a vu en Seine-et-Marne. Il était candidat à Meaux en 95, une ville qui avait toujours été, depuis la sortie de la guerre, qui avait toujours été à gauche. Il l'a fait basculer. Une ville qui n'est pas facile, avec une sociologie compliquée pour un élu de droite. Il y a plus de 50% de logements sociaux. Et il a su conquérir cette ville et la conserver parce que il a cette capacité à être concret, il est un bâtisseur aussi. Quand on regarde ce qu'il a fait à Meaux, il a complètement changé le paysage de cette ville. Et ça fait 3 fois de suite qu'il est réélu maire, donc c'est jamais par hasard. Et la dernière fois avec pratiquement 70% au premier tour. Et puis la reconquête, ça a été aussi à sa circonscription. En 97, la circonscription était passée à gauche. Et en 2002, il a regagné cette circonscription. Il l'a conservée depuis. Donc ce tempérament pour aller à la conquête des villes et des circonscriptions, c'est le premier élément, je crois, important de sa personnalité. Le deuxième, ça a été un formidable animateur de la campagne de Nicolas Sarkozy pendant les présidentielles, l'organisation de ces meetings géants et la mobilisation de toute la structure UMP a été formidable, et ça, c'est à lui qu'on le doit. Et puis, troisième élément, c'est celui qui a fait de l'UMP le plus grand parti politique de France aujourd'hui, puisqu'on est à plus de 300 000 militants à jour de cotisation. C'est 100 000 de plus qu'au Parti socialiste. Et dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, où pour gagner 2017, il faudra reconquérir des territoires, Copé fait partie de ces personnalités qui ont ce tempérament et cette énergie pour reconquérir les territoires. C'est aussi une véritable boîte à idées. Il l'a montré avec son club Génération France, qui est un club de débat. Et donc rien ne lui plaît tant que le débat. Et dans ces périodes d'opposition, il faut reconstruire. Et pour reconstruire, il faut être capable d'accepter, de porter le débat pour sortir des idées nouvelles.
Reconquête et créativité, c'est ça, entre autres, qui motive votre soutien. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, monsieur Jacob, mais en ce moment, sur la scène politique, il y a comme un drôle de phénomène. Une sorte de bisounoursite aiguë, puisque ça a commencé
Ouh là
avec.
là.
Oui, je vous explique. Sur le plateau des paroles et des actes, M. Copé et M. Fillon se donnaient du Jean-François et du François, alors que dans les journaux, au même moment, on pouvait entendre un autre son de cloche bien plus aigre. Ça a continué ensuite au congrès du Parti Socialiste à Toulouse, où là aussi, c'était une sorte de grande câlinothérapie. Alors, bisounours en politique, ici, on parle sans langue de bois. Donc, vous soutenez Jean-François Copé, vous pouvez appeler M. Fillon François, mais vous devez certainement lui trouver quelques défauts.
Oui, mais je n'irai pas sur ce terrain-là pour la raison suivante, c'est quand on est dans une famille politique, on ne cherche pas à exister en tirant contre son camp. Et donc, partant du principe que ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort que ce qui peut nous diviser, notre électorat, nos militants attendent de nous la capacité à savoir discuter de nos et débattre de nos divergences, mais jamais sans aller dans les attaques personnelles ou chercher à blesser. Ça n'apporte rien. Ça fait de l'audimat, ça fait du spectacle. Tout ça, c'est tout à fait vrai. Mais il faut savoir se positionner dans un autre registre. C'est ça aussi. Et quand les électeurs vous font confiance, vous confient un mandat, une responsabilité forte, c'est parce qu'ils croient aux idées que l'on défend et que l'on présente, et ils n'ont pas envie d'avoir des querelles un peu personnelles. Ce qui n'empêche pas les différences et les divergences, bien entendu. Mais on peut le faire avec noblesse et sérénité, et c'est ce qu'on essaie de faire, même si la politique, c'est aussi la passion. De temps en temps, dans la passion, il y a un peu de dérapage, mais voilà, mais il faut savoir
donc
les retenir.
Des divergences, mais pas d'attaque.
Non, parce que ça n'apporte rien,
voilà.
et ça dessert notre camp.
Et finalement, les questions de personnes sont secondaires, alors on va passer outre
cela. Elles ne sont pas secondaires, mais il ne faut pas que ça tourne à la querelle de personnes. Elles ne sont pas secondaires parce que quand on est candidat à un président... Non, mais même quand on est candidat à la présidence d'un parti, c'est aussi une question de style.
Ouais.
Et le style, ça compte en politique, c'est-à-dire la manière dont vous arrivez dans une salle, vous montez, vous avez un meeting avec 1000 personnes, vous montez à la tribune, la manière dont vous allez capter l'attention, saisir la salle, savoir la retourner, parfois la faire rire, etc. Tout ça, ça compte. Et donc, le style, c'est important. Les personnes sont importantes. Mais il ne faut pas tomber dans les querelles.
Voilà. Alors, même si les personnes sont importantes, les styles, il y a des questions qui se posent pour l'UMP qui reste un grand parti, c'est même le plus grand parti de France, ouais, au niveau des adhérents, mais un parti qui a perdu toutes les élections depuis 2007. 2007, année d'élections remportées. Alors la question qui se pose, c'est comment faire pour justement renverser cette logique. Ça, c'est vraiment une question de fond.
C'est pour ça qu'il faut un homme de reconquête, et c'est une des raisons qui fait que, dans le contexte actuel, Jean-François Copé est la bonne personne à la bonne place pour la présidence de l'UMP, parce qu'il a cette capacité de reconquête et il l'a prouvé dans le passé. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne gagnera pas les présidentielles ou législatives de 2017 par le simple jeu de l'alternance. Il faudra avoir la capacité de reconquérir les territoires, et ça va être d'abord les municipales, ensuite on aura les cantonales et les régionales, puisque vraisemblablement que les conseillers territoriaux vont être annulés par l'actuelle majorité, les sénatoriales, puis viendra le temps de la présidentielle. Mais il faut reconquérir les territoires, donc convaincre les Français avec un projet alternatif. Donc ce projet alternatif, ce temps de l'opposition, il sert à le préparer, à l'échafauder. Il faut quelqu'un qui soit capable de le porter. Mais pour alimenter ce débat et construire un projet de reconquête, il nous faut un chef à la tête de l'UMP, et c'est ce qu'incarne Copé.
Il faut une personne.
Voilà, oui, tout à fait.
Voilà. Alors, reconquête des territoires, vous en parlez depuis le début. Est-ce que ce n'est pas une réponse aussi à un certain reproche qu'on a fait longtemps à l'UMP d'avoir perdu son enracinement local, et dont justement, vous-même et Jean-François Copé êtes un contre-exemple?
Oui, si il est certain que lorsqu'on perd les présidentielles et les législatives, on avait perdu avant toutes les élections intermédiaires. Et bien évidemment qu'à partir de là, on a perdu de l'ancrage sur le terrain. Et donc savoir conserver des villes, des départements, des régions, et en reconquérir d'autres, c'est vraiment essentiel. Mais pour ça, il faut accepter de construire un nouveau projet, et l'opposition nous sert à ça, c'est-à-dire d'accepter le débat. Jean-François Copé a souhaité organiser les motions et puis les différentes sensibilités au sein du groupe. Vous savez, la droite parlementaire en France s'est toujours construite sur un trépied. Les gaullistes, les libéraux et les démocrates chrétiens, ça a toujours été les trois grandes familles. Et donc Copé a décidé là de faire vivre ses sensibilités avec une motion qui sera présentée, qui est plutôt par les humanistes, où on va retrouver Jean-Pierre Raffarin, Luc Chatel, un certain nombre de personnalités, des libéraux également, Hervé Novelli, et d'autres. On aura aussi des gens qui sont plus engagés sur une droite plus marquée. Et ces différentes motions sont là pour organiser le débat en interne, parce que le jour où on a décidé de créer l'UMP, c'est on a décidé de rassembler ces trois familles qui ont toujours existé auparavant et de faire une grande famille de droite et du centre.
Reconquête de votre propre famille, donc, à vous entendre.
Oui. Et au-delà, il faut rassembler au-delà.
Et si l'avenir, justement, de l'UMP était à droite ? Alors là, ça ressemble à un truisme, alors je précise, plutôt à sa droite. Alors là, je reviens aussi dans les sondages qui fleurissent dans les journaux, comme quoi vos militants à l'UMP, en majorité, sont pour une alliance avec le Front National. On a vu, à contrario, que sur le plateau de Des Paroles et des Actes, sur France 2, Jean-François Copé, comme François Fillon, s'était prononcé contre un rapprochement avec le Front National. Et vous allez même plus loin, puisque vous avez décidé de demander l'exclusion du parti d'un élu de Seine-et-Marne qui avait fondé une association qui s'appelle Ligue de droite, qui voulait justement discuter, voire même faire des accords, donc localement, avec le Front National. Alors, Front National, UMP, ennemi intime ou partenaire bientôt amené à collaborer ?
Non, il n'y aura jamais aucun accord politique avec le Front National. Nous avons des vraies divergences fortes. En plus, le Front National est un parti qui a voulu et qui a causé la perte de Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen a appelé à faire battre Nicolas Sarkozy aux dernières élections présidentielles. En revanche, il n'y a pas de sujet tabou. C'est-à-dire qu'on pose tous les sujets sur la table. Jean-François Copé l'a fait avec ce qui a fait de bruit médiatique avec le racisme anti-blanc, en expliquant qu'il n'y a pas d'un côté le bon racisme qui serait revendiqué par certaines associations et de l'autre un racisme qui serait condamnable. Toutes les formes de racisme, de quelque nature qu'elles soient, sont condamnables et ne sont pas acceptables et insupportables. Donc il faut être clair sur tous ces sujets, mais poser le sujet de l'immigration, les sujets de la sécurité, le sujet des frontières. Il n'y a pas de sujet tabou et on met tout à plat sur la table. Mais on n'est pas dans des accords politiciens avec le Front National, ça n'a aucun sens. Ça a toujours été un adversaire politique et ça restera toujours un adversaire politique.
Une droite sans tabou, c'est en fait la droite décomplexée dont Jean-François Copé parle dans son manifeste. Alors justement, dans son manifeste, vous l'avez dit à l'instant, il y a un point qui a retenu toute l'attention et caché le reste, c'était ce racisme anti-blanc. Alors, on a bien compris, vous l'avez commencé un petit peu à expliquer ce qu'il y avait derrière cette idée qu'on a un peu trop stigmatisée. Il est évident qu'il y a dans des quartiers, et on ne va pas le nier ici, où il y a des formes de racisme qui frappent des gens parce qu'ils sont blancs. Mais en même temps, même si c'est une réalité, ce n'est pas la majorité des cas. Et est-ce que le fait d'avoir mis en avant une forme de racisme plutôt que d'autres, n'a pas été une erreur? François Fillon déclarait dans la presse que, certes, il partageait le constat de Jean-François Copé, mais qu'il n'aurait pas utilisé les mêmes mots. Tout simplement aussi parce que, d'une part, on a vu, c'est mettre en avant une forme de racisme et pas d'autre, et d'autre part, c'est reprendre une expression qui est très marquée, puisqu'elle a été, en effet, créée par François Duprat en 1978, qui était alors responsable du Front National. C'est le premier à l'avoir employé de façon comme ça officielle dans un parti politique. Elle a ensuite fait les choux gras de Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Est-ce que là, c'était une erreur de forme? Si le fond, sans revenir sur le fond.
Non, je crois qu'à ne pas vouloir évoquer les choses, on ne les règle jamais. On ne trouve pas de solution sur des sujets qu'on n'a pas le courage ou qu'on a peur d'évoquer. Moi, je me souviens du débat sur la loi sur la burqa, lorsque Jean-François Copé a travaillé et présenté un projet de loi, une proposition de loi au départ, interdisant le port de la burqa dans l'espace public. Beaucoup se sont levés à cette époque en disant « mais finalement, ça concerne peu de femmes et pourquoi faire une loi pour si peu? Pourquoi mettre ce sujet sur la table ?» Je crois que tout le monde aujourd'hui reconnaît l'intérêt de cette loi parce qu'elle évite d'abord de stigmatiser les femmes, c'est elles qui en sont les premières victimes, et ensuite, eh bien, c'est de combattre toutes les formes de fondamentalisme ou d'extrémisme. Et en ça, cette loi était nécessaire. Et là, sur tous ces sujets, il faut avoir le courage de les aborder, de les poser à plat. Si on fuit le débat, on ne trouvera pas de solution. Et là, on a une vraie différence avec le Front National, puisque le Front National, pour qu'il puisse continuer à prospérer, il ne faut pas qu'il y ait de solution de trouver. Parce que dès qu'on apporte une solution à un problème, ben le Front National n'a plus de fonds de commerce. C'est la raison pour laquelle Jean-Marie Le Pen, comme Marine Le Pen, était opposé à la loi interdisant la burqa. Parce que pour eux, il y avait intérêt à ce que de voir des femmes qui se promènent dans les rues avec une burqa, parce que ça suscite les craintes et la peur. Et donc nous choisissons d'apporter une solution en disant on l'interdit, et pour d'autres, il faut au contraire que le problème subsiste parce que ça leur permet d'exister eux-mêmes.
C'est effectivement un débat qu'il faut poser, il ne faut pas avoir peur de le poser, mais après, il y a les mots qu'on emploie et pour le poser. Alors, pourquoi effectivement avoir repris une formule qui est marquée et pas avoir changé? On aurait pu parler de discrimination anti-blanc ou de racisme. Je trouvais une autre formule.
Oui, mais vous savez pertinemment
que... au-delà de ça, qui est un petit peu un point comme ça à tirer dans les coins, on voit quand même une certaine contradiction entre ce que dit Jean-François Copé, ce que vous dites aussi, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'alliance avec le Front National, et certaines petites choses qui rappellent voilà, le Front National. Alors, d'un côté, on dit non, et de l'autre, on reprend des choses qui font sentir un peu le Front National.
Oui, mais il faut pas se positionner par rapport à tel ou tel parti. On assume nos idées. C'est l'idée de la droite décomplexée. Et ça n'est pas parce que le Front National dit qu'il y a un problème de protection aux frontières qu'il ne faut pas poser le sujet en disant on ne l'évoque pas parce que le Front National l'a dit. Mais à partir de ce moment-là, on ne trouvera jamais de solution à rien. Donc le courage de s'affirmer, encore une fois, l'accord électoral et politique n'a pas de sens. En revanche, ce qui n'a pas de sens, ce serait aussi de ne pas évoquer tous les sujets qui fâchent ou qui sont un peu compliqués à aborder. Et on est dans un monde très, très médiatique. Et donc, de temps en temps, y a aussi besoin d'avoir une accroche qui fait qu'on suscite la réaction de l'opinion. Et ensuite, on peut porter le débat et l'expliquer, le décliner. Sinon, il n'arrive jamais sur la table.
Donc, vous reconnaissez qu'il y avait une petite facilité à reprendre une expression tout de même.
Voilà. Mais je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait dans. Qu'il ait cherché tout cela derrière. Simplement, le problème se pose, et il part d'ailleurs d'une anecdote, mais il y en a beaucoup, plusieurs, oui. Au-delà de celle qu'il cite, qui s'est passée à Meaux, on en trouve bien d'autres. Il suffit de lire les faits divers dans n'importe quel journal.
Encore une fois, ce n'est pas le fond ici qui est remis en cause, c'est vraiment un point de forme. Alors, on parlait de. Ça serait idiot d'avoir des sujets tabous, ça serait idiot aussi de ne pas évoquer tous les partenaires possibles de l'UMP, parce qu'on se concentre sur le Front National, mais il y a un nouveau partenaire potentiel, c'est l'UDI, l'Union démocrate et indépendante de Jean-Louis Borloo, qu'il a créé récemment, et qui peut-être peut vous poser problème, puisque vous parliez tout à l'heure de ce trépied sur lequel marche la droite historiquement, et dans lequel vous citiez les démocrates, les démocrates chrétiens. Or, les démocrates chrétiens, il y en a beaucoup dans l'Union des démocrates et des indépendants. Alors, le parti de Jean-Louis Borloo, c'est un partenaire ou là encore, c'est un ennemi pour des luttes fratricides?
Sur les démocrates chrétiens, très majoritairement, ils sont à l'UMP. Oui. Je rappelle que l'UMP, ce sont 200 députés, l'UDI, c'est 30 députés qui vont du CNI, donc qui est quand même très à droite et sur une position droite dure, qui vont du CNI aux démocrates chrétiens en passant par le parti de Gaston Flosse. Donc voilà la réalité de l'UDI. Et donc, les libéraux, les humanistes, les démocrates chrétiens sont très, très majoritairement au sein de l'UMP. Jean-Louis Borloo a souhaité créer son groupe qui existait déjà auparavant. C'était le groupe Nouveau Centre, qui était rebaptisé UDI. Il souhaite en faire un parti. Bon. Pourquoi pas? Je veux dire, cette aventure, nous, on a été pendant 5 ans avec le Nouveau Centre, où devait y avoir 27 députés, et là, l'UDI, il y en a 30. Donc,
pas de raison que ça change.
Il n'y a pas de raison que ça change. Et ils sont clairement, et l'UDI est clairement dans l'opposition à l'actuel gouvernement, et on se retrouve sur de nombreux textes.
Alors, on a beaucoup parlé de la course à la présidence de l'UMP, et à juste titre, puisque celui qui sera élu de François Fillon ou de Jean-François Copé sera, en quelque sorte, le premier opposant de France, en tout cas la tête du premier parti d'opposition de France. Pourtant, en ce moment, le premier opposant de France, c'est ni Jean-François Copé, ni François Fillon, mais c'est vous, Christian Jacob, puisque Le 24 octobre, lors des questions au gouvernement, vous avez interpellé Jean-Marc Ayrault en lui disant « Vous êtes fragile et on vous entend depuis un petit moment sur tous les sujets, que ça soit la compétitivité, sur le logement social, la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans la répression du 17 octobre 1961. Et j'en passe. » Alors, est-ce que c'est pas vous qui auriez dû vous présenter à la tête de l'UMP ?
Je pense qu'il y a des gens plus compétents et surtout plus engagés pour le faire. Moi, vous savez, j'ai voulu être président du groupe UMP à l'Assemblée. Je suis ravi de l'être parce que c'est aussi ce qui me convient comme travail. C'est-à-dire qu'on est sur du travail législatif. En opposition avec le gouvernement, hier pour soutenir notre gouvernement UMP, aujourd'hui pour être en opposition au gouvernement de gauche.
Alors, blague un petit peu à part, on voit que vos traits, vous le disiez à l'instant, ils sont surtout décochés contre Jean-Marc Ayrault et son gouvernement, mais Jean-Marc Ayrault. Alors, est-ce qu'il est vraiment aussi amateur que le portrait que vous dressez de lui dans toutes les interviews que vous donnez ?
Jean-Marc Ayrault est quelqu'un de tout à fait respectable par ailleurs. On est dans un combat et un débat politique. Et il y a plusieurs difficultés pour Jean-Marc Ayrault. La première est qu'il est un président de la République qui ne trace pas de cap. Donc c'est très compliqué pour un Premier ministre lorsque le président de la République ne donne pas le cap. Les institutions de la 5e font que le président doit donner le cap et ensuite le Premier ministre et le gouvernement déclinent la politique du président de la République. Mais or là, on voit sur des sujets aussi importants que celui de la compétitivité, le coût du travail, le financement de la protection sociale, la fiscalité, il n'y a pas de ligne directrice du président de la République. Donc on a un Premier ministre qui est obligé de naviguer à vue. Donc ça, c'est un vrai handicap pour lui. Il y a un deuxième handicap qui est vrai pour lui et pour le président de la République, c'est que ni l'un ni l'autre n'ont aucune expérience de l'exécutif. Aucun des deux n'avait jamais été ministre auparavant. Et je pense que ça complique quand même la donne. Et puis, troisième point, Jean-Marc Ayrault, à la fois au sein du PS et dans son équipe gouvernementale, des équipes qui ne lui facilitent pas les choses. On a bien vu ce quatuor autour de Moscovici, Payon, Valls et puis Le Foll, imposer un premier secrétaire au PS contre l'avis du Premier ministre. Tout le monde sait que le candidat de Jean-Marc Ayrault, ce n'était pas Harlem Désir. Donc il s'est fait imposer le premier secrétaire du PS. Ses ministres essayent de rivaliser de coups médias pour passer sur le devant de la scène. Encore ce matin, avec Michel Sapin, qui tacle sévèrement le Premier ministre après la xème bourde qu'il fait sur les 35 heures. Donc, on a
ce
là
matin,
plusieurs
c'est
éléments.
Mardi 30 octobre, ouais. Puisque nous ne sommes pas en direct. Nos auditeurs le savent. Continuez.
Et donc, tout ça, ce sont des difficultés pour Jean-Marc Ayrault. Pas de cap de la part du président. Pas d'expérience d'exécutif, ni pour lui, ni pour le président. Des difficultés avec certains de ses ministres qui commencent à lorgner sur Matignon. Et une fragilité au sein du PS. La vraie star du dernier congrès du PS, c'était Martine Aubry. Et pour Ayrault, ça a été un peu l'opération, sauvons le soldat Ayrault, qui, à mon avis, ne lui rend pas service.
Alors justement, vous dites qu'il n'y a pas de cap tracé par le président. Ça fait bientôt 6 mois que l'équipe Hollande est au pouvoir. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même dans les orientations qui avaient été données avant et qui ont été commencées à être mises en place qui a retenu votre attention et que vous trouvez intéressant ? Ou rien du tout, vraiment rien ?
C'est toujours dur de dire qu'il n'y a rien parce qu'on semble être caricatural, mais il n'empêche que le fait de ne pas avoir de cap fait que tout le reste devient anecdotique. La voix de la France sur la scène internationale, jamais la France n'a été aussi silencieuse. On était habitué avec Jacques Chirac pendant 12 ans, avec Nicolas Sarkozy, à avoir une voix de la France qu'on entendait partout dans le monde. Avec François Hollande, on n'entend plus cette voix. On l'a vu aussi dans les sommets européens. C'est-à-dire, la France est dans une situation très ambiguë vis-à-vis de l'Allemagne. Or, depuis toujours, depuis De Gaulle à Adenauer, le moteur de l'Union européenne, ça a toujours été le couple franco-allemand de tout temps. Et là, d'avoir voulu changer d'alliance et battre froid les Allemands, je pense que c'est une vraie erreur stratégique de François Hollande et qui fait qu'aujourd'hui, la France n'est plus à l'initiative. Et ne pas avoir de cap non plus sur la politique française, eh bien, tout ça fait que ça écrase le reste, même si François Hollande comme Jean-Marc Ayrault sont par ailleurs des gens tout à fait respectables, intelligents, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais ne pas avoir la capacité de donner un cap, de donner une ligne, eh bien, ça fragilise ou ça anéantit tout le reste.
Alors, on ne parle pas de personne, on l'a bien compris, là, on parle du fond. Et on entend, vous êtes assez critique face au gouvernement et à ces mesures. On pourrait vous rétorquer, c'est d'ailleurs ce que font à volo les sympathisants et les militants du PS, que c'est plus facile de critiquer que de proposer. Alors justement, pour éviter ce reproche, je vais vous soumettre des sujets d'actualité et de fond donc, des problèmes de fond, et vous allez me dire ce que propose l'UMP, ou s'il n'y a pas vraiment de consensus que vous préconiseriez là-dessus. Et alors la seule petite règle, c'est que vous ne devez pas critiquer le gouvernement, puisque là on est dans un espace de proposition. Faisons comme si vous étiez majoritaire à l'Assemblée. Alors que faire, que feriez-vous pour rendre les entreprises françaises compétitives à l'heure du marché monde?
L'abaissement du coût du travail. L'abaissement du coût du travail, c'est trouver une assiette beaucoup plus large pour le financement de notre protection sociale. C'est ce que l'on avait proposé avec la TVA compétitivité qui permettait de baisser les charges sur salaire et de les faire financer par de la TVA. Ça, un premier avantage, c'est que le coût du travail diminue d'autant de la baisse des cotisations sociales. Ensuite, on a une assiette beaucoup plus large et entre autres, on fait financer notre protection sociale par les produits d'importation, au lieu de le faire financer par les seuls salaires. Ça, c'est vraiment la première piste. La deuxième piste, c'est donner plus de souplesse sur la durée du travail. C'est les accords d'entreprise. L'idée sur laquelle on travaille, c'est de dire que sur le temps de travail, laissons-le, on peut conserver une durée légale du temps de travail, qui est le cadre général sur lequel on s'appuie. Mais ensuite, par des accords d'entreprise, eh bien, on peut augmenter cette durée de travail ou la diminuer à partir du moment où il y a un vote au sein de l'entreprise sur une proposition qui est faite par le chef d'entreprise et soumise aux salariés, qui peut permettre dans certains cas de dire, eh bien, pour aller prendre des parts de marché supplémentaires, eh bien, au lieu de travailler 35 heures, on va travailler 39, payer 39. Parce que ça donnera plus de compétitivité. Et puis dans un autre cas où il y a des commandes qui s'arrêtent, plutôt que de passer par un plan social, eh bien, on va diminuer le temps de travail, donc de la souplesse et sortir du carcan actuel sur le temps de travail et abaissement des charges. C'est, je crois, les deux leviers. Et un troisième levier qui est essentiel aussi, même si on peut le retrouver dans d'autres cadres, c'est celui de la formation. Et moi, je suis un adepte, j'ai toujours poussé... J'ai souvent été mis en minorité, y compris dans ma propre famille politique, mais je le défends, l'apprentissage à 14 ans. On a des taux de placement sur l'apprentissage ou l'alternance à 85-90%, et quand vous prenez la même formation dans l'enseignement général, on tombe à 50%. Or, pas un mot du président de la République, pas un mot du Premier ministre dans son discours de politique générale sur l'apprentissage et l'alternance. Or, c'est ça aussi la réponse pour les jeunes.
Alors, autre sujet qui préoccupe beaucoup les Français et tout ça est lié, c'est le chômage qui a atteint un record historique, hélas. Alors, que faire concrètement? Que feriez-vous concrètement pour essayer d'endiguer le chômage?
Bien. Il y a une partie, bien j'ai sûr, répondu ouais. À la première question, c'est-à-dire avec la baisse du coût du travail, redonner des points de compétitivité, la formation, parce que on a chaque année des jeunes qui sortent de notre système scolaire sans aucune qualification, et donc ces jeunes, bien évidemment, vont avoir les plus grandes difficultés. Le diplôme n'est pas la réponse à tout, et la qualification non plus, mais on sait qu'au moins au départ, si on n'a pas cette qualification, on a beaucoup plus de mal à trouver du travail. Et donc, il faut encourager les entreprises qui font le pari de la jeunesse, donc tous ceux qui acceptent de former des jeunes en apprentissage ou en alternance, eh bien, il faut qu'elles soient accompagnées par l'État, davantage que c'est le cas aujourd'hui, parce que former un jeune, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça coûte de l'argent aussi. Et donc, il faut que ces entreprises qui accepte de prendre ces jeunes en charge, eh bien, soit accompagné plutôt que de se bagarrer pour se piquer un cadre de 30 ans qui est déjà bien formé.
Alors, on l'entendait tout à l'heure, on parlait de politique européenne et vous critiquiez les orientations prises par François Hollande en cette matière. Alors, que faire avec nos partenaires de l'Union européenne? Autrement dit, est-ce que la situation qui est la nôtre et qui, on va dire, est en gros la même partout en Union européenne, est-ce que cette situation, elle ne peut pas globalement être changée par une nouvelle politique européenne, fédérale ou autre?
Moi, je suis un Européen convaincu. J'ai voté et ratifié tous les traités, à commencer par celui de Maastricht, parce que je crois profondément à l'Europe. Et on a aujourd'hui un sujet qui est celui de la protection à nos frontières. C'est vrai pour les personnes, c'est le sujet sur l'immigration, bien entendu, mais c'est aussi vrai sur les biens. C'est aussi vrai sur les normes. Et donc, il faut qu'aujourd'hui, on ait la capacité d'avoir cette efficacité de se protéger aussi par nos normes, nos normes sociales, nos normes sanitaires, nos normes environnementales, et pouvoir les imposer dans le cadre des négociations commerciales, des négociations de l'OMC. Et on a besoin pour ça d'avoir une Europe plus politique, plus forte. Donc, ça pose le problème des institutions, le problème de la gouvernance. De l'Union européenne. Je pense que ça n'est pas, on n'est plus entre fédéralisme et Europe des nations. Il y a des politiques communes sur lesquelles on peut avancer plus loin et plus vite avec ceux qui ont envie d'y aller. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce noyau dur et de ce moteur de l'axe franco-allemand, parce que c'est avec les Allemands qu'on le bâtira. Et on aura la capacité d'entraîner un certain nombre de pays. Mais l'Europe est une vraie réponse. C'est 450 millions d'habitants avec un potentiel de revenus à l'échelle du monde qui est très important. Mais aujourd'hui, une difficulté sur les sujets que je viens d'évoquer, mais on peut aussi l'évoquer en matière de défense, de politique étrangère. Et le jour où l'Europe peut parler d'une voix sur sa politique étrangère ou sa politique de défense, est-ce qu'il est normal qu'il y ait deux pays qui aient une politique de défense? C'est l'Angleterre et la France. Si on retire l'Angleterre et la France, il n'y a pas de politique de défense en Europe. Et donc, est-ce que c'est à ces deux seules nations de le porter? Bon, toutes ces questions, on a de quoi là, avoir un beau débat politique et un nouvel élan à donner à la construction européenne.
Vous parliez de voix de la France qui s'était tue. Là, on parle de voix d'Europe qu'il faudrait faire naître. Et en guise de conclusion, la voix de l'opposition, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui en 2012? Alors, vous êtes évidemment le mieux placé pour en parler. Ce sera notre conclusion. Que faire quand on est dans l'opposition en 2012? Et qu'est-ce qu'on devrait faire quand on est dans l'opposition?
D'abord, tirer les enseignements de la défaite. On a perdu les élections. On a perdu beaucoup de départements, beaucoup de villes, toutes les régions, le Sénat, l'Assemblée nationale et l'Élysée. Donc aujourd'hui, il faut passer dans une phase de reconquête. Et avant, et pour cette phase de reconquête, il faut aller au contact des Français. C'est ce que l'on fait dans cette campagne interne, d'abord avec les militants, hein, en multipliant les réunions. Je pense que Jean-François Copé va avoir fait, là, et Fillon à peu près autant, plus d'une centaine de réunions dans cette campagne interne. Donc, contact avec nos militants, contact avec les Français, faire émerger de nouvelles idées, bâtir un projet, et ensuite, une fois, mais ça prend un peu de temps, une fois que ce projet est bâti, eh bien, on le présente aux Français et on repart à la reconquête. Mais ça ne se fera pas par le simple jeu de l'alternance en attendant. Si on n'a pas cette capacité à porter des débats qui parfois fâchent un peu, dérangent, qu'on préférerait oublier, on ne sera pas crédible. L'opposition, elle est d'autant plus respectée qu'elle est crédible et sérieuse. Et donc la balle est clairement dans notre camp. C'est à nous d'être capables de nous reconstruire, c'est à nous d'être capables de porter des idées qui vont attirer l'attention des Français et qui vont nous faire confiance. N'attendons pas de la majorité qui nous facilite les choses. Ce n'est pas leur rôle ni leur ambition.
Merci Christian Jacob. Alors merci d'avoir répondu sans langue de bois, on peut le dire. Pari tenu à mes questions. Merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau numéro des grands formats de Sans langue de bois avec un nouvel invité politique. Mais avant cela, j'aurai le plaisir de vous proposer un nouveau numéro de notre grand journal politique avec Marie-Ève. D'ici là, surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.